Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
C'est sans aucun doute l'un des articles scientifiques promis à la plus belle postérité et c'est aussi probablement le plus beau super fail scientifique de l'année. Un article du Lancet consacré à une immense étude au sujet de l'hydrochloroquine, laquelle a abouti à ça. On écoute un extrait du journal de 18h du 27 mai dernier sur France Culture, bien sûr.
Le gouvernement a donc tranché, l'hydroxychloroquine ne peut plus être utilisée en France pour traiter la Covid-19 à l'hôpital. En abrogeant le décret d'autorisation, le ministre de la Santé Olivier Véran a tenu compte de l'avis défavorable du Haut Conseil de la Santé publique. La semaine dernière, la prestigieuse revue médicale The Lancet avait publié une étude pointant l'inefficacité et les risques de l'hydroxychloroquine contre le nouveau coronavirus. À Marseille, le professeur Didier Raoult continue à défendre le médicament malgré la décision du gouvernement. Margot Delpierre.
L'hydroxychloroquine n'est plus autorisée en France pour traiter la Covid-19, mais la liberté de prescription des médecins, elle, reste entière. Ce qui veut dire, selon le professeur Didier Raoult, qu'on n'a pas le droit de recommander ce traitement, mais que l'administrer à un malade de la Covid-19 n'est pas officiellement interdit. Le virologue assure qu'à Marseille, ce dérivé de la chloroquine utilisé contre le paludisme a, je cite, sauvé beaucoup de gens, et il balaie d'un revers de la main l'étude de la revue médicale The Lancet qu'il qualifie de foireuse. Cette dernière estime que l'hydroxychloroquine est inefficace contre la Covid-19, voire néfaste. L'IHU Méditerranée Infection, dirigé par le professeur Raoult, affirme qu'il continuera à traiter ses patients avec les traitements les plus adaptés. Près de 4000 personnes atteintes par la Covid-19 ont déjà été soignées dans cet institut hospitalo-universitaire. On peut donc continuer à prescrire l'hydroxychloroquine aux malades. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, y a répondu tout à l'heure en sortant du Conseil des ministres.
Il y a un cadre réglementaire qui définit la possibilité ou non de prescrire un médicament. Ce médicament, dans cette indication, comme d'autres médicaments, dans d'autres indications, si un prescripteur s'affranchit des règles, il prend, entre guillemets, ses risques.
L'hydroxychloroquine fait partie des nombreux traitements testés depuis le début de l'épidémie, mais c'est certainement le plus discuté.
Alors cet article du Lancet qui a eu donc de si grandes conséquences, il faut tout d'abord le replacer dans ce contexte. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Yanis Roussel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant à l'IHU Méditerranée et votre directeur de thèse acquis une certaine notoriété puisqu'il s'appelle Didier Raoult. Nous sommes également en compagnie d'Isabelle Rival. Vous êtes maître de conférence à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Isabelle Rival, il n'est pas inutile tout d'abord de nous dire ce qu'est le Lancet.
Oui, bonjour Guillaume Erner. Le Lancet, c'est une très grande revue scientifique médicale, et donc c'est une des plus anciennes, et on peut dire que c'est le Graal de la publication médicale, et donc évidemment, publier dans cette revue a immédiatement un impact très important à la fois pour les malades et pour les patients et pour les décideurs.
Mais alors, c'est une revue où c'est facile de publier, on envoie son article, et puis alors il est
très
publié.
Difficile. Normalement, il est relu avec un grand soin par des lecteurs, décortiqué, révisé, etc. Et normalement, sinon, ce n'est pas facile de publier dans le Lancet.
Alors, Yanis Roussel, vous êtes évidemment jugé parti, mais lorsque vous l'avez reçu, cette étude, qu'est-ce que vous avez fait et comment vous y êtes pris pour voir si vous étiez en accord ou non? Bon, le suspense, c'était pas très important, mais en tout cas, comment vous y êtes pris pour voir si vous étiez en désaccord avec ces résultats?
Quand on a reçu, quand on a vu pour la première fois cet article, qui est sorti, je le rappelle, un vendredi soir en plein week-end de l'Ascension, on a d'abord essayé de comprendre ce que cet article recelait, quelles étaient les données. Évidemment, il y a eu beaucoup de réactions, qui étaient attendues de notre part, mais nous, on ne souhaite pas réagir à chaud lorsqu'un article sort. On veut d'abord comprendre ce que cet article dit, on veut comprendre sa méthode, on veut comprendre ses éventuels biais, ses éventuelles failles. Et donc, on a commencé à travailler, tout le week-end, puis le début de semaine. Au début, on se posait de grosses questions sur la question du plan méthodologique, notamment par le fait que c'était des analyses des dossiers de patients et que les dossiers de patients, c'est quelque chose de complexe. On peut difficilement analyser autant de dossiers patients lorsqu'on est une équipe de 4 chercheurs, donc les 4 auteurs de l'article. Mais au début de la semaine, le temps, le chemin faisant, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus grave que ça et que le problème de fond était une question de traçabilité des données. Les auteurs ne donnent aux lecteurs aucune indication sur la provenance de leurs données.
Bon, mais on peut leur faire confiance, non ?
Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ils disent « faites-nous confiance ». Notre entreprise, Surgisphere, qui est la meilleure entreprise du monde, faites-nous confiance, nos données sont fiables, on a les données de 96 000 patients. Bon, on s'est un peu trompé sur l'Australie quelques jours plus tard, on s'est trompé sur l'Australie, on a dit qu'un hôpital était en Australie alors qu'en fait il était en Asie, mais ça change rien, faites-nous confiance. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont demandé aux lecteurs de faire confiance sur la base de données dont on n'a pas de traçabilité. Et ça, c'est vraiment un point très important, parce qu'aujourd'hui, on arrive à une ère où le big data va permettre de faire des analyses statistiques de très grande ampleur, de très grande force. Mais pour que ces données puissent être révisées, être relues, que les analyses puissent être vérifiées, il faut qu'on ait accès aux données de base. Et là, dans cet article, ce n'était pas le cas. Et donc ça, c'était une vraie question qui s'est posée, et puis sans doute, j'y reviendrai, mais il y a eu des questions qui se sont posées sur la légitimité de l'entreprise à avancer ce qu'elle avançait. On y reviendra, mais il y a eu des failles, il y a eu des choses qui ne collaient pas avec le fait d'avoir réussi à récolter autant de données patients, c'est-à-dire presque 95% des patients américains hospitalisés pour le Covid étaient inclus dans leur étude, c'est-à-dire que presque tous les hôpitaux américains auraient envoyé leurs données à Surgisphere. Puis quand on regarde l'entreprise, ne colle pas.
Isabelle Rival, vous qui êtes statisticienne, quel regard portez-vous sur cette étude du Lancet ?
Alors, moi, je voudrais dire que comme Yannis Roussel, j'ai pris aussi le temps de réfléchir avant de d'élever quelques critiques. Alors justement, comme il l'a dit, les critiques sur les données ont été faites assez vite. J'ai entendu le professeur Raoult qui évoquait tout de suite le cas de l'Australie, qui évoquait le fait que beaucoup de caractéristiques étaient bizarrement tout à fait uniformes à travers les continents, alors que ces données rassemblent des dossiers de patients qui viennent des 6 continents dans 671 hôpitaux différents. Donc c'était assez curieux. Donc mais comme tout cela avait été dit, je me suis dit que j'allais quand même regarder les aspects méthodologiques, et j'ai été étonnée par plusieurs points.
Dites-nous lesquels.
Avec autant d'hôpitaux différents, on peut se poser des questions quant à l'homogénéité des données, parce que autant les données étaient relativement équilibrées en termes de données sur les patients, de leurs caractéristiques, de leur âge, de leur sexe, de leur comorbidité, etc., on peut pas en dire autant des hôpitaux. Quand vous choisissez un hôpital pour aller vous faire opérer, vous vous intéressez à sa qualité, etc. Et donc dans l'article, je n'ai pas vu de trace de ce qu'on appelle introduction de facteurs hôpital pour rendre compte de cette hétérogénéité, ce qui se fait habituellement dans ces cas-là. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, il y avait la question de, donc on prédit, les modèles qui ont été utilisés, vous disent si les patients vont plus mourir avec ou sans traitement, ou plutôt avec des traitements standards versus avec des traitements notamment à base de chloroquine ou d'hydroxychloroquine. Et donc, avant d'établir quelle est la sensibilité donc de ces modèles aux différents paramètres, donc évidemment le traitement ou pas le traitement, et puis aussi des facteurs comme l'âge, les comorbidités, etc., il faut se soucier de la validation du modèle, c'est-à-dire est-ce que le modèle prédit bien, est-ce qu'il dit bien quand une personne est morte, si elle est effectivement si elle est morte, vous voyez, s'il n'y a pas trop de faux positifs ou de faux négatifs. Alors que d'habitude, on quantifie la qualité du modèle en termes de, par exemple, de sensibilité et de spécificité. Eh bien là, il n'y a pas de validation. On ne sait pas très bien si le modèle est correct en quelque sorte.
Et puis troisième chose qui vous a gêné.
Ce sont des modèles relativement un peu plus compliqués que juste des modèles qui prédisent une mortalité. Ce sont des modèles de survie, c'est-à-dire que ils sont censés dire aussi comment se fait le décours temporel. D'accord.
C'est-à-dire.
Vous prenez tous les patients au moment où ils rentrent à l'hôpital, et puis il va y avoir des patients qui meurent, mais ça se fait au cours du temps, voyez. Et donc on peut décrire ça plutôt que simplement dire à la fin de la période d'observation les personnes sont mortes ou non.
D'accord.
Et ça, c'est un modèle un peu plus compliqué que l'on valide normalement aussi. Et il suffit, par exemple, de montrer des courbes qu'on appelle des courbes de Kaplan-Meier et qui doivent avoir certaines propriétés pour que le modèle soit valide. Et là, il y a juste une toute petite phrase sibylline dans l'article qui, en fait, à mon avis, ne valide pas vraiment ce type de modèle.
Voilà, donc j'ai...
Ça veut dire quoi? Juste, Isabelle Rival, pour que l'on comprenne bien, est-ce que ça veut dire que finalement, au vu de l'absence de ces modèles-là, ou au vu de la manière dont les chiffres étaient présentés, eh bien, on aurait pu se dire, un statisticien au regard aiguisé aurait pu se dire que ces chiffres étaient bidons?
Je dirais pas ça. Je dirais qu'un un reviewer, donc le lecteur de la revue, aurait dû demander ce genre de validation qui aurait pu simplement être mise dans les données supplémentaires pour que chacun puisse se dire voilà, ces modèles sont sensibles à tel et tel et tel paramètre, mais est-ce que le modèle est bon ou pas? Et ça, en fait, on ne le sait pas. Et donc, j'ai dans une correspondance au Lancet, pour laquelle je n'ai pas eu de réponse, bien sûr, enfin, pour l'instant, eh bien, j'ai soulevé ces
Ils sont occupés.
Voilà.
Yanis Roussel, sur Gisphere, c'est une boîte sérieuse quand même.
C'est ce qu'on pouvait se dire en regardant la communication des auteurs sur l'article. Après, évidemment, et c'est aussi la grande force, moi je tiens à insister sur la grande force des réseaux sociaux, évidemment les gens ont commencé à chercher, les gens ont commencé à fouiller, et la surgissement Gisphere que personne ne connaissait, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses très étonnantes. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Surgisphere, sa femme Dessaille, l'auteur de l'article, a deux entreprises. Quartz Clinical, qui récolte les données, et Surgisphere, qui les analyse. On s'est rendu compte que ces entreprises avaient très peu de salariés. Quartz Clinical, par exemple, on avait 4, 5, 6 identifiés, et que parmi ces salariés, il y avait des choses qui étaient quand même étranges. Par exemple, leur science editor, donc quelqu'un qui est censé avoir un regard scientifique sur le travail mené, c'était quelqu'un qui n'a pas fait d'études de sciences, qui n'avait jamais publié un article scientifique, et dont les seules publications étaient en fait des romans d'heroic fantasy. On s'est rendu compte...
On aime beaucoup l'heroic fantasy sur France Culture.
J'aime beaucoup l'heroic fantasy aussi, je suis bercé au Seigneur des Anneaux et à tout ce qui en a suivi en termes d'influence, mais c'est des compétences différentes, c'est un métier différent, un écosystème différent pour citer Didier Raoult, l'heroic fantasy et la collecte de données médicales. On s'est rendu compte que leur directrice des ventes était en fait une hôtesse qui avait été embauchée pour un salon et qui est une personne qui avait un travail érotique à Las Vegas, ce qui semble là aussi, alors... Chaque femme est évidemment libre de ce qu'elle fait de son corps.
Absolument. Certains articles la présentent comme une actrice pornographique.
Bon, bah ce n'aurait pas été mon genre de regarder si des vidéos existent, mais bon, chacun peut chercher s'il le souhaite.
Voilà, on peut mener aussi un double cursus.
Tout à fait, non, c'est pas du tout la question. Après, le problème, c'est que les seuls éléments, dans ce cursus, les seuls éléments qu'on a sont dans cet aspect de sa vie et ne sont pas des éléments qui laissent entendre que cette personne peut être directrice des ventes d'un logiciel qui aurait été vendu à pratiquement tous les hôpitaux du monde.
Et oui, parce que c'est ça en fait le problème, c'est que vous vous demandez en fait comment, avec une équipe aussi hétérogène et aussi atypique, un recueil de tant de données a été possible, Yanis Roussel.
Voilà, c'est la question, c'est comment faire pour récolter, et je pense notamment aux patients, aux hôpitaux français, j'insiste un peu sur cette question. Les auteurs ont publié deux articles à partir des données de Surgisphere. Un article dans le Lancet dont on parle, mais aussi un autre article dans le New England Journal of Medicine, qui conclut que certains médicaments prescrits pour des problèmes cardiaques ne posaient pas de problème de contre-indication dans le cadre du Covid. Le Covid ne touchait pas plus ces patients. Parce qu'on posait des questions sur ces questions-là à ce moment. Donc cet article du New England Journal of Medicine, publié à partir des mêmes données, donc des données qui aujourd'hui apparaissent comme probablement, je ne sais pas, inventées peut-être même, les auteurs disent on avait 5 hôpitaux en France et 107 patients en France. Donc 5 hôpitaux français auraient envoyé les dossiers médicaux de leurs patients, qui sont quand même assez graves, à une entreprise américaine, sans qu'on sache s'il y a des dossiers éthiques qui avaient été déposés, sans qu'on sache si un comité de protection des personnes avait été saisi pour être certain que ces données étaient gérées de la bonne manière. Et à partir de là, on regarde les données, on se rend compte que ces patients ont été stratifiés par, je cite les auteurs, groupe ethnique, en disant tant de patients sont blancs, tant de patients sont de couleur, tant de patients, je les cite, moi c'est des choses que je n'apprécie pas forcément, mais des choses que les auteurs ont faites. Or, en France, pour collecter ce genre de données, notamment dans les dossiers médicaux, c'est quelque chose qui théoriquement est illégal. Donc comment est-ce que les auteurs arrivent à déduire la couleur de peau de patients français à partir de données qui ne sont pas censées avoir été légalement autorisées à collecter? Et donc ça, c'est des questions-là qu'on et donc tout paraissait faux, en fait. Dès qu'on creuse un peu, dès qu'on gratte un peu, tout paraissait faux. Et le personnage de Sapane Desai, qui est vraiment au cœur de cette histoire, avec les trois autres auteurs aujourd'hui sont rétractés, personne ne comprend vraiment comment il a réussi à faire, il dit avoir réussi à faire, c'est-à-dire, je continue, avoir récolté peut-être le quart des dossiers médicaux des patients hospitalisés en Afrique. Alors, le système de santé en Afrique résiste à cette crise pour l'instant, Mais de là à avoir des dossiers médicaux aussi détaillés, permettant de faire des analyses aussi lourdes dans un quart des hôpitaux en Afrique, on peut se poser des questions. Donc, ça ne collait pas avec la réalité, et leurs conclusions ne collant pas non plus avec les réalités, moi, la réaction qu'on a, c'est « tout est faux ».
Isabelle Rival, un commentaire.
J'ajoutais juste un élément, oui, concernant les données qui ne pouvaient pas être présentes ou qui ne sont pas présentes. Là encore, dans ce genre d'analyse, on donne des éléments sur les données manquantes. Et là, c'est très curieux parce que on vous dit que pour des données manquantes du type est-ce que le patient utilisait un traitement ou non, on considère que l'absence de données vaut défaut, c'est-à-dire pas de réponse pour un traitement, égale le patient ne prend pas de traitement. Et il n'est rien dit d'autre sur les autres type de données manquantes, donc ça peut s'appliquer à ce que disait Yanis Roussel, et par exemple on donne le pourcentage de données manquantes, la manière dont elles ont été remplacées, etc. Et là, rien.
Mais Isabelle Rival, vous qui êtes habituée à observer des articles en tant que statisticienne, quand vous voyez ça, vous dites quoi? Vous dites que, et je ne sais pas moi, les reviewers, ceux qui ont reçu cet article au Lancet étaient ivres, avaient mal dormi, enfin bref. Est-ce que c'est possible?
Je ne dis pas ça, j'ai dit ce que je dis tout à l'heure, j'ai dit qu'ils n'ont pas tout à fait fait leur travail dans ce cas.
Non mais c'est ça, est-ce que vous avez déjà vu, car vous avez l'habitude d'en lire des revues scientifiques, est-ce que vous avez déjà vu des articles qui, disons, ont ces fragilités-là, ou est-ce que c'est inhabituel?
C'est inhabituel de voir, pour moi, de voir ce genre de défaut dans une revue, oui, d'un aussi haut niveau, et surtout qu'on n'ait pas pris plus de précautions pour un article dont on savait qu'il allait avoir des conséquences, parce que c'est très important dans un sens ou dans un autre, comme je le disais au début, à la fois pour les patients, c'est quand même fondamental, et donc aussi pour les décideurs, pour la santé publique. Je veux dire, donc qu'on ne prenne pas un maximum de précautions scientifiques pour ce type d'article, c'est ça qui m'a choqué et qui m'a incité à regarder de plus près.
Alors, Yanis Roussel, vous qui êtes doctorant à l'IHU Méditerranée, alors évidemment, vous êtes jugé parti, mais vous dites quoi quand vous avez ce papier qui a été manifestement construit sur des données, on va dire, à minima, inexactes?
Moi, si aujourd'hui, je ne sais pas si votre question porte un peu sur les leçons qu'on doit commencer à en tirer. Moi, ce qui me surprend, c'est que vous avez parlé d'un processus de reviewing, donc un processus de relecture de l'article qui était défaillant. Il y en a eu deux. Les auteurs ont aussi publié dans le New England Journal of Medicine, qui est la deuxième immense revue médicale internationale. Donc, les deux plus grandes revues médicales ont toutes les deux été, ont été abusées par les auteurs. Donc, moi, ça me pose de vraies questions sur le principe du reviewing. Ça me pose de vraies questions aussi sur le principe de l'édition, donc le rôle de l'éditeur de ces journaux. Parce que s'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a deux étapes lorsqu'une revue, lorsqu'un article est publié. Il y a une première lecture par l'éditeur qui essaie de savoir si oui ou non l'article correspond à la ligne du journal, correspond à est-ce que ça intéresse le journal, ses conclusions, cet article. Et ensuite, des reviewers, donc des relecteurs, qui vont s'assurer que l'article, scientifiquement, est vrai. Et moi, la question qui me pose, c'est pourquoi est-ce que les éditeurs des journaux que j'ai cités, je pense notamment à Richard Horton, l'éditeur de Lancet, pourquoi est-ce qu'il s'est jeté sur cet article? Et ce que je trouve, la première explication qui vient, et moi, je ne veux surtout pas me mêler de mes politiques américaines, je ne vote pas aux États-Unis, je vote en France, donc ce n'est pas mon sujet, mais Richard Horton a publié plusieurs éditoriaux dans Lancet contre Donald Trump. Il se trouve que Donald Trump a choisi l'hydroxychloroquine comme marqueur politique aux États-Unis. Il y a un débat, outre que le débat français, mais ce qui est le débat aux États-Unis, et donc que Richard Horton se soit jeté sur un article qui démolit l'hydroxychloroquine et le fait publier dans le Lancet, je me demande quelle est l'indépendance de la science dans ce cas-là. Est-ce que la science n'a pas été un petit peu instrumentalisée dans un combat politique qui, encore une fois, ne concerne que les États-Unis et ne devrait pas concerner des revues scientifiques comme le Lancet?
Et sur J-Sphère? Qu'est-ce que vous en pensez, Yanis Roussel? Je veux dire, un chef d'entreprise qui décide apparemment d'avoir des données bidonnées, puisque c'est ce que vous pensez, oui ou non?
C'est ce que le retrait des autres auteurs semble laisser entendre, oui.
Voilà, alors donc si on part de ce constat-là, quelle est la motivation d'une entreprise privée qui publie des données bidonnées au risque de voir sa réputation, comment dirais-je, ternie?
Vous connaissiez sur J-Sphère il y a un mois?
Non, maintenant je connais sur
J-Sphère. Vous connaissez sur J-Sphère aujourd'hui?
Ah, maintenant.
C'est un élément de réponse.
Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises dans l'histoire, et là on est plus dans l'histoire économique que dans l'histoire de la science, des entreprises qui ont souhaité un jour faire le buzz. Et alors sur ce plan-là, Surgisphere est devenue l'entreprise de collecte de données médicales la plus connue au monde. Donc voilà, c'est quand même des intérêts privés. Alors moi je ne sais pas quels sont les intérêts au fond, je ne peux pas rentrer là-dedans, je ne les connais pas. Mais en attendant, c'est une entreprise qui s'est fait un coup de pub absolu en magistral, même si aujourd'hui il y a un bad buzz. Moi, je me rappelle de certains commentateurs qui disaient « all publicity is good publicity ».
Bon, alors évidemment, ce papier du Lancet est une sorte de superfait rêvé. Un mot de conclusion, Isabelle Rival, à ce sujet.
Écoutez, j'espère que ça pourrait être l'occasion de rendre justement les éditeurs de journaux un peu plus rigoureux dans leur système de reviewing, surtout quand on sait à l'avance que il s'agit d'études qui peuvent avoir des répercussions extrêmement importantes.
Yanis Roussel, est-ce que vous vous souvenez d'un bidonnage semblable dans l'histoire des revues scientifiques?
Naturellement, on peut penser à la question de la mémoire de l'eau de Benveniste en 88, publié dans Nature, qui a été rétracté plus tard. On peut penser aussi au Lancet, qui en 98 avait publié un article de Wakefield sur les vaccins et le lien entre vaccins et autisme, qui a été rétracté quelques années plus tard. Et moi, je préfère vous parler de l'histoire de Paul Kammerer, qui était un scientifique autrichien, qui a voulu montrer, en utilisant des crapauds accoucheurs, que les facteurs acquis, des paramètres acquis chez ces crapauds étaient transmissibles à leur descendance. Et lorsque cet article a été publié, il y a un retentissement colossal à l'époque. Des personnes ont demandé, mais montrez-nous vos crapauds. Aujourd'hui, on dit montrez-nous vos données. À l'époque, c'était montrez-nous vos crapauds. Il a toujours refusé. Et finalement, il s'est avéré que cet article était une fraude. Alors ça, c'est intéressant sur deux plans, déjà, parce que c'est une histoire assez amusante, je trouve, en tant que telle. Mais c'est surtout que derrière, il y a eu des conséquences majeures, parce que Lysenko, qui est devenu l'équivalent du président du Haut Conseil de Santé Publique pour les questions agricoles en URSS à l'époque stalinienne, s'est servi de ce travail pour construire une théorie socialiste de l'hérédité. Et c'est sur ce travail que l'ensemble de la politique agricole de l'URSS a été fondée. Donc ces décisions politiques basées sur des articles dont il s'avère qu'ils sont faux, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a plus d'un siècle, et qui malheureusement a des conséquences pour les gens, parce que une partie des familles dans l'URSS peuvent s'expliquer par ces théories, donc par ce lysenkisme dont on se souvient aujourd'hui, qu'on fait un peu d'épistémologie, et c'est quelque chose qui, j'espère, ne sera pas amené à se reproduire.
Merci beaucoup. Yanis Roussel, je rappelle que vous êtes doctorant à l'IHU Méditerranée. Et merci à Isabelle Rival, maître de conférence à l'ESPCI. Merci à tous les deux. Vos critiques, vos remarques, vos suggestions, vos idées de superfelles sur mon mail guillaume.erner@radiofrance.com, guillaume.erner@radiofrance.com. Superfelles a été déglingué par Aurélien Dubost à la production, gâché par Swad Boukorsa à la technique et complètement ruiné par Vivien Demeyer à la réalisation. Superfelles.